Merci d'être venus si nombreux ce soir pour cette soirée d'ouverture du 15e Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans cette maison du peuple et de la culture qui est ce Théâtre d'Arras. Je donne la parole à Éric Bellineau, président de Colère du Présent, et qui va donc pouvoir vous donner des propos liminaires à cette soirée.
Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, et bienvenue donc au Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale. Je tiens vraiment à cette identité, Salon Populaire et de Critique Sociale. Je commencerai par remercier nos différents partenaires, l'État, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, les différentes mairies, les CE, PFM, Cinémovida, Plan Séquence, les futurs partenaires avec optimisme et les passés avec optimisme aussi. Le 15e salon, déjà. Colère du présent, ce n'est pas seulement le salon du livre, c'est aussi des ateliers d'écriture, des débats, des projets tout au long de l'année. L'année écoulée a vraiment été riche en rencontres avec les différentes associations, les centres sociaux d'Arras, Liévin, Libercourt, Mazingarde, Valenciennes. Comme me disait un homme politique juste après les différents attentats, il faut absolument que les personnes revêtissent leur costume de citoyen. Mais Colère du présent y contribue depuis 15 ans en donnant la parole aux gens qui n'ont jamais l'habitude de l'avoir, en les écoutant et en proposant des débats, en leur permettant enfin d'être citoyens. Une démocratie, ce n'est pas seulement un droit de vote. Je souhaite rendre vraiment hommage à différentes associations, notamment à toutes les associations qui s'occupent des migrants, notamment à celles que je connais personnellement, y ayant des amitiés en son sein, Terre d'Errance. En 1989, on fêtait dans une grande liesse la chute du mur de Berlin. En 2016, au XXIe siècle, l'Europe de plus en plus libérale construit des murs de barbelés, des murs de sectarisme et de peur. Nous ne pouvons que réagir devant un tel recul et soutenir de nos actes et paroles toutes ces associations. Mon deuxième coup de chapeau sera pour les ouvrières de Samsonite, dont le combat pour comprendre pourquoi et comment leur usine a fermé n'est pas fini. Après être allées aux États-Unis, porter plainte contre les actionnaires américains du géant de la bagagerie Bain Capital, elles sont actuellement en répétition théâtrale, d'une pièce qui retrace leur histoire, et Colère du présent les invitera sûrement très prochainement. Mon dernier coup de chapeau ira à Podemos, nos amis espagnols, présents ce soir, qui relèvent le défi citoyen d'une démocratie autrement. Nous sommes très heureux de les accueillir à Arras, au sein du Salon du Livre d'Expression Populaire et de Critique Sociale, identité de Colère du présent. Et enfin, toute programmation ne peut se faire sans une équipe. Je tiens donc à remercier toute l'équipe de Colère du présent pour son travail, son sérieux, sa ténacité. Merci à Stéphanie, Justine, Angélique, les Sophie, Annick, Suzy, Sylvie, Christine, Marie-Christine, Lucie, Lola, Fanny, Max, Guy, François, Mamadou, Jackie, Julien, Tristan, Marc, Boris, Nico. Merci aussi à Benoît Labre, les Ochettes et au club de Prèves. Je terminerai en citant quelques mots de Marion Brunet, qui était lauréat de l'an dernier du prix Ado en colère. Alors caressons nos colères comme si elles étaient vivantes, parce qu'il faut absolument qu'elles le soient. Soignons-les pour qu'elles sachent diriger intelligemment et qu'elles habitent nos livres, nos mots, nos têtes et celles de nos enfants. Foutons un joyeux bordel avec nos meilleures armes, intelligence critique, insurrection poétique, lecture subversive et émancipatrice. Bon salon à tous. Merci.
Donc cette soirée sous le signe de l'élection, disais-je, parce que on va donc aborder deux moments déjà importants pour Colère du présent et puis pour la vie du livre. Rappeler un prix qui a été remis mardi en présence de 400 adolescents du bassin minier et également de l'Arageois, qui a été remis ici à Arras, à la cité Gambetta Carnot. un prix organisé à la fois par le département du Pas-de-Calais et Colère du Présent, qui s'appelle donc Ado en Colère, qui a été remis pour la 8e fois. Et ce prix littéraire est l'une des marques de ce que l'on peut faire par ailleurs. Et donc effectivement, comme disait Éric Bellino, Colère du Présent, depuis 15 ans, ce sont des actions sur le terrain, ce sont bien sûr des actions littéraires, mais ce sont aussi des actions d'engagement, des actions d'ouverture de débat, de création de ciné-débat par exemple, des actions d'atelier d'écriture, énormément de choses que l'on fait sur le terrain pour essayer justement de développer cette ouverture d'esprit, cette capacité donnée à tous ceux qui souhaitent exprimer leur colère, de le faire et de le faire entendre et de le faire lire. Et tout ce travail s'est vu, notamment aujourd'hui, qui est un peu le point d'orgue avant le Salon du Livre, de toute une action qu'on a menée depuis 1er avril, pardon. Donc un mois d'activité, déjà avant ce Salon du Livre. Aujourd'hui en particulier, avec énormément de choses qui sont passées dans toute la ville. Toute la semaine, on avait aussi fait énormément de choses à l'hôtel de Guine, à différents lieux de la ville d'Arras. Donc si jamais ma langue fourche, c'est aussi qu'on est un petit peu fatigué. Et donc je vous prie de m'en excuser. En tout cas, aujourd'hui, on peut rappeler par exemple qu'il y a eu un bédéton. Donc il y a eu 40 gamins qui ont fait une sorte de marathon BD à l'hôtel de Guine. Il y a eu un débat sur les Diggers. Et les dignes représentants ou successeurs des Diggers sont dans la salle. Donc ça c'était à Cap Nord, librairie bande dessinée. Il y a eu également des auteurs qui sont allés sur les territoires, à Isel-les-Hameaux, à Beauvoir-Boisvent, à Lille aussi, hein, dans la périphérie d'Arras, la grosse ville juste à côté. On est allé aussi à Courrières, bien sûr, comment pourrais-je oublier Courrières. Voilà, et donc l'idée c'est justement ça, Colère du Présent, c'est d'essayer d'amener les auteurs là où les publics ne vont pas forcément se déplacer pour venir nous voir. Essayer comme ça de faire un échange entre les territoires et entre les personnes. On va passer maintenant au premier temps fort de cette soirée, donc sur les prix littéraires, et en commençant par le prix Ado en Colère. Donc le prix Ado en Colère, je vous l'ai présenté rapidement, c'est un prix qui est remis par 400 lycéens et collégiens, des jeunes qui sont accompagnés par des documentalistes, par des professeurs, qui lisent 5 livres sur l'année et qui choisissent parmi les 5 livres le lauréat ou la lauréate. La lauréate, pour le coup, s'appelle Manon Fargeton, le suivant sur la liste, qui était en compétition avec Irène Cohen-Janka, au moins un, avec également Charlotte Herly, 20 pieds sous terre, Pixel noir de Jeanne Adéba, et Une arme dans la tête de Claire Mazard. L'idée n'est pas forcément... Alors, la question de l'élection, puisqu'on parlait d'élection, elle est importante, parce que ça crée un enjeu, mais l'objet de ce prix est aussi la rencontre. La rencontre des jeunes avec des auteurs, des jeunes avec des textes, et des jeunes également avec des professionnels qui sont en lien avec les thématiques des livres. Que la connexion se fasse entre réalité et fiction, et c'est vraiment là que se trouve l'action principale de Colère du Présent. Alors... Le lycée Henri d'Arras a fait un petit film de ce qui s'est passé mardi. Et donc, en 4-5 minutes, vous allez pouvoir découvrir un peu ce qu'est ce prix Ado en Colère.
Simplement qu'aujourd'hui, la culture, sous toutes ses formes, c'est le rempart qui nous préserve de la barbarie, que la culture, c'est ce qui, demain, vous appartiendra, puisque vous avez, vous, jeunes aujourd'hui, les clés du monde de demain. Paf !
Nous avons aimé la scène du coup de fil de la police à la famille Blanchard, car il y a de la tristesse, du mystère. C'est la scène phare qu'on retient le plus. C'est la scène qui fait commencer l'enquête de Manon. C'est émouvant, choquant et poignant.
Il y a cette chose dans l'air qui circule entre les gens, une colère énorme.
C'est pour ça que s'il est bien de lire des classiques, à mon avis, il est bien aussi de lire des romans contemporains. Parce que eux seuls traitent d'une réalité qui est celle du temps présent.
Des bières.
Un rouleau de fil électrique.
Sans le fil électrique.
Je vais aller voir les métallos, aller voir les mineurs, aller voir les gens qui travaillent dans les hypermarchés. Et là, je vais voir les gens dans un palais de justice. La vraie vie, elle est là, et les gens fantastiques, ils sont là, ils sont à côté de chez nous. Ils font des métiers de tous les jours qu'on ne regarde jamais. Et c'est là où je vais chercher mes sujets d'interrogation, de préoccupation, et puis aussi mes sujets d'histoire que je dirais presque j'invente, alors qu'elles existent.
Et je rappellerai aussi qu'une démocratie, ce n'est pas simplement que le droit de vote, c'est aussi d'être citoyen, de défendre ses idées. Voilà. Merci à tous.
On peut dire que grâce à ce livre, ça aide à se révolter et à avoir un avis sur l'actualité.
On peut parfois se retrouver dans un livre, par rapport, parce que des fois ça colle avec l'actualité. Par exemple, là, le dernier atelier qu'on a eu, c'était sur les enfants soldats, et ça colle avec l'actualité par rapport aux différents conflits en ce moment, l'Irak, l'Afghanistan, etc.
Paf !
J'adore l'intitulé de ce prix. J'ai été une ado en colère, et je suis plus une ado, mais je suis toujours régulièrement en colère face à ce que je vois, face à ce que je lis, face à ce que je vis. Et je crois que la capacité à se mettre en colère et à refuser, elle est essentielle. Et j'espère que vous la garderez. Voilà.
Ado en colère, c'est un projet qui est devenu une véritable action qui nous mène vraiment de septembre à mai à porter de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose qui nourrit vraiment la vie de Colère du présent. On y a intégré des projets et des actions audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques. Et donc, ouais, vous en avez l'une des émanations. Voilà. Et il s'est trouvé que nous avons eu aussi un contact avec un théâtre qui se trouve à Lille, qui est spécialisé jeunesse et qui est ouvert à toute la région, le théâtre Le Grand Bleu. Et il s'est trouvé que dans Le Grand Bleu, on y a trouvé Thomas Huel, qui va nous parler d'un atelier qui a été mené du coup avec des adolescents du Nord. Voilà, et Thomas va pouvoir nous lire aussi quelques extraits, je pense, de Manon Fargeton pour qu'on se rende compte du texte, parce que le texte est toujours important.
Alors moi, je m'appelle Thomas. Pour ceux qui connaissent la région, vous savez que je ne suis pas de Lille. Je ne vis pas au Grand Bleu. Alors, vu que l'adjoint au maire avait salué les intermittents du spectacle, merci, je trouve que je le suis, parce qu'en fait, je suis auteur et interprète, je fais plutôt de la poésie orale. Je tiens à préciser que ce soir, je ne suis pas là comme intermittent du spectacle, je ne suis pas payé, je suis bénévole et je suis là en tant que modeste militant de l'éducation populaire. Isia franchit la porte de chez elle et la laissa claquer dans son dos. Elle fit glisser la bandoulière de son sac qui atterrit avec un bruit mou sous le porte-manteau de l'entrée. Un malaise gluant lui collait à la peau. Ce n'était pas seulement la tristesse et le choc. Il y avait autre chose. Quelque chose qu'elle ne s'expliquait pas. Ce matin, après l'accident, elle avait traîné du côté de l'hôpital jusqu'à ce qu'elle apprenne la mort de Nathan. Puis elle avait marché vers le Sillon, la grande plage de Saint-Malo, et errait le reste de la journée sur le front de mer. Plusieurs fois, elle avait eu la sensation d'être observée. Elle s'était retournée pour scruter les rares passants qui marchaient sur la digue, mais aucun ne semblait s'intéresser à elle. La marée montante avait peu à peu recouvert le sable, repoussant Isia vers la ville, et lorsque les vagues avaient chahuté les pieds des brise-lames, elle était rentrée chez elle. Son ventre vide lança un gargouillis grotesque dans le silence de l'appartement. Isia n'en tint pas compte. Elle fila droit vers la salle de bain. Ses habits jonchèrent bientôt la moquette orange du couloir, puis, pieds nus sur le carrelage froid, elle ouvrit le robinet de la douche, attendant en frissonnant que l'eau chauffe avant de pénétrer sous le jet brûlant. Assise au fond du bac, elle laissa la torpeur abrutir sa peine et son malaise à grand renfort de vapeur. Elle resta là une bonne demi-heure. Sa mère allait l'engueuler de gaspiller l'eau comme ça. Mais l'impression gluante ne la lâchait pas. En se connectant à sa boîte mail, Isia parcourut rapidement l'objet des messages et eut l'impression de recevoir un coup de poing à l'estomac. « Rejoins Nathan Valentin sur Facebook !» disait l'un d'eux. Le mail datait du début de l'après-midi. Rapidement, deux pensées se percutèrent dans l'esprit d'Isia. 1. Nathan est mort ce matin. 2. Nathan n'est pas sur Facebook. Elle et lui devaient être les deux seuls extraterrestres du collège à ne pas posséder de compte sur le réseau social. Forte de ces observations tout à fait rationnelles et face à l'existence incompréhensible de ce mail, les seuls mots qui trouvèrent le chemin de sa bouche furent « What the fuck ?» En toutes circonstances, Isia restait rock'n'roll. Le suivant sur la liste, suivant sur la liste, le suivant sur la liste, 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 la liste, 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 roman de Manon Fargeton, qui a donc remporté le prix littéraire Ado en colère.
Tu veux continuer ? Je vais arrêter là. Peut-être que tu peux dire un petit mot sur l'atelier.
Bah ouais, parce qu'en fait, j'avais quand même préparé un petit truc, parce que je voulais pas juste faire une lecture, mais on peut s'arrêter là, si vous voulez. Et en même temps, ça me gêne, parce que je suis pas ado, même si des fois, je suis en colère. Quoi. Et ça me gêne, parce que je prends le risque d'ébrécher un peu. Bah, la communication qu'on fait généralement sur les actions d'éducation populaire et sur les ateliers. Parce que cet atelier a été très difficile, en fait, même si... Il est quand même une réussite. La plus belle des réussites, déjà, c'est que cet préadolescent accepte de jouer une semaine de vacances sur un pari fou, c'est-à-dire s'enfermer dans un théâtre avec quelqu'un qu'il ne connaisse pas. Au départ, le prix Ado en colère, c'est donc 500 lycéens, collégiens, lycéens, 400, 500 collégiens, lycéens, qui ont lu les livres et qui ont vraiment fait un travail de juré. Moi, je me suis retrouvé au Grand Bleu, en fait, avec des adolescents qui, pour la plupart, étaient très jeunes et qui, en fait, pour la plupart, avaient commencé à lire le livre mais ne l'avaient pas lu et qui étaient suffisamment jeunes pour ne pas savoir qu'était la génétique, qui est le thème clé du roman, même si je ne veux pas vous livrer le secret, mais ça parle un peu de génétique. Alors, on a tous été des ados et on est tous plein de gènes. Et on est tous des tas de mots, souvent coincés là. Des tas de bouts, des tas de bouts d'hommes, des tas de chromosomes, 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 croire aux hommes, croire aux hommes, croire aux hommes, croire aux hommes. Faut croire aux hommes pour écrire un livre. Faut croire aux hommes pour organiser un salon du livre. Faut croire aux hommes aussi pour tenir un atelier pendant une semaine avec... des ados quand le tour de table commence par « Alors, qu'est-ce qui fait que t'es là ?» La difficulté, c'est pas ça, parce que ça, c'est normal. La difficulté de cet atelier, ça a été la cohésion. Le premier objectif d'un atelier, c'est de créer du plaisir et de la cohésion de groupe. Et en l'occurrence, dans l'atelier, il y avait une fracture sociale très forte, parce qu'il y avait 5 adolescents qui se connaissaient pas, mais qui étaient plutôt d'une jeunesse confortable. Et puis il y avait 2 sœurs qui, elles, se connaissaient très bien et qui apparemment ont une expérience de l'exclusion sociale qui a commencé très 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 tôt. Et il a fallu se battre toute la semaine pour que le groupe ne se fracture pas, en l'occurrence. Et j'ai failli lâcher l'affaire, par défaut d'énergie. Et puis finalement, c'est revenu. Donc ça vaut le coup de croire aux hommes.
Et après, il faut que je reprenne la parole après ça. Mais bon, moi, c'est mon rôle de clown, de polichinelle, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Merci Thomas. On va attaquer maintenant le nouveau thème, le nouveau sujet, le suivant sur la liste. C'est bien sûr le prix Amina Mecker. Autre système électoral, si je puis dire. C'est un prix qui est remis depuis maintenant 12 ans. Et pour en parler, je vais demander donc de venir sur scène à Pascal Dessin en tant que président du jury du prix Amina Mecker.
Bonsoir, bonsoir. On m'a demandé de créer un petit peu de suspense et on m'a même suggéré de chanter une chanson. Alors ça pourrait être Léo Ferré, hein, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, bon. pour tout bagage, on a 15 ans, même si c'est 20 ans. Ou de fredonner même un air, ce genre d'air, vous savez. Ta-dam, 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 ta-dam. Bon, ça concerne Chantal, mais on pense à elle. Alors certes, nous sommes dans un théâtre, mais ça ne serait pas très sérieux. Même si, bien, si c'est bien et même souhaitable de n'être pas trop sérieux quand on a 15 ans, 15 ans de colère du présent. Alors le prix Jean-Emile Amecker a la vocation de récompenser un livre dont la volonté de critique sociale est évidente et par là même de soutenir concrètement un auteur. Et ce n'est pas rien à un moment où le gouvernement, que l'on aurait pu espérer cultiver et éclairer, a décidé de faire tant de mal aux auteurs. La sélection de cette année donne bien une idée de notre époque incertaine et tourmentée, en proie à de brûlants désordres, à de terribles injustices. Suspense. L'ultime sélection était composée cette année de La Petite Barbare, de Astrid Manfredi, Les Émeutiers, de Philippe Huet, Les Échoués, de Pascal Manoukian, Assaïra, de Denis Lachaud, La Mécanique du Sceau, de Nicolas Roiret. Le jury a été très sérieux. Je vous le garantis, imaginez un peu 16 personnes passionnées autour d'une grande table, avec notamment Hervé Delouche, Jean-Bernard Puy et tant d'autres. Ça a frotté un peu, comme on dit dans le cyclisme, des échanges virils mais corrects. Le prix Jean-Emile Amecker 2016 est attribué à un roman qui résonne d'une manière troublante avec les événements que notre société est en train de vivre. Son auteur est un des écrivains les plus singuliers de la littérature française contemporaine. Son écriture est forte, une écriture qui fascine, qui emballe. Son imaginaire est varié, parfois insolite, toujours puissant. Le prix Jean-Emile Amecker 2016 est attribué cette année à Saïra de Denis Lachaud.
Bonsoir. La colère, quand elle ne trouve aucun moyen de s'exprimer, ronge à l'intérieur. La colère, quand on le décide, est un excellent carburant pour agir au présent. J'ai toujours considéré ma colère comme une motivation fondamentale parmi toutes celles qui m'ont poussé à écrire et qui alimentent au jour le jour mon travail. Assaïra, l'idée du roman, m'est venue en 2011, en travaillant au théâtre sur le sort que réserve l'Europe aux migrants traversant les déserts africains, puis la Méditerranée, pour venir chez nous. Cette idée, écrire un roman s'inspirant de tous les soulèvements, insurrections, révolutions qui ont eu lieu dans le monde à différentes époques de l'histoire, en commençant par la Révolution française, cette idée est née de ma colère et de ma honte au regard du traitement que nous infligeons à ces hommes et ces femmes qui ont tout quitté dans leur pays, ont maintes fois risqué leur vie, ont vu beaucoup d'entre eux la perdre en route et ne jamais arriver à destination. Ma colère et ma honte. En me lançant dans l'écriture de ce roman que vous saluez aujourd'hui, j'ai souhaité agréger dans une seule et même fiction un ensemble de réflexions, de stratégies et d'actions qui ont dessiné dans différents pays l'histoire du combat contre l'oppression et réinventé la citoyenneté. Car j'ai pensé qu'en ce début de XXIe siècle, il était urgent de contribuer à mon niveau, par l'écriture, qui est mon outil, au réveil des imaginaires de résistance. En France, mon pays. En me remettant le prix Amil Amecker, vous reconnaissez cette tentative. Vous me signifiez qu'elle a résonné en vous. Je vous en remercie. Colère du présent, Conseil départemental du Pas-de-Calais, Pascal Dessin, lauréat 2015 et président du jury 2016, jusqu'à ce soir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Ainsi vont les élections. Certains gagnent un prix, deviennent présidents, et puis en un an, c'est fini. Le mandat d'un an, c'est un peu court peut-être, non ? Mais bon, c'est trop tard, Pascal, pour changer les choses. La lecture du prix à Milan Meker. Mais si, il y a Francky qui se balade partout. Bah, le voilà.
Si, bah, il est là, il est bavard, celui-là.
Le deuxième temps du prix à Milan Meker est tout à fait important, qui est la lecture du texte.
Je me suis dit, bon, c'est bien. Alors effectivement, j'avais moi aussi envie de vous faire entendre de vive voix, effectivement, le texte de Denis Lachaud, Assaïra, édité chez Actes Sud. Quelques extraits. Les coudes de Saint-Just battent dans ses manches, au rythme de la chanson qu'il fredonne. Le dos de ses poings serrés frotte le satin des poches de son blouson, cherche la douceur. Le jour se lève, il va faire beau. À sa droite, trois hommes patientent, comme lui, en bordure de trottoir, avenue de Versailles. Il a froid aux pieds dans ses tennis, piétine sur place, essaie de ne pas trop bouger. Il ne veut pas déranger ses trois camarades. L'un d'entre eux tousse, l'un d'entre eux se racle la gorge, l'un d'entre eux dit « plus que deux minutes ». Saint-Just est venu le premier se poster au coin de l'avenue de Versailles et de la rue Clotte-Terrasse, dans le 16e arrondissement. Il se tient là, depuis plus de 7 minutes, debout et presque immobile, en bord de chaussée, main dans les poches, face au panneau stop. Il se hisse sur la pointe des pieds en respirant profondément pour ne pas perdre l'équilibre. Il s'aperçoit soudain que ses trois camarades sont en noir. Rien n'a été prévu à ce sujet. Confortable et pratique. C'est tout ce qui a été demandé. Confortable et pratique. Nous voilà tous les quatre en noir, comme au deuil, oui. Les voitures défilent. Les voitures ralentissent et, sauf exception, elles ne marquent pas l'arrêt au stop. On va travailler, on circule tôt. On veut être certain de se garer dans la rue. Il reste si peu de place hors des parkings à Paris. Aucun automobiliste ne relève la présence de Saint-Just ou de ses trois camarades. Quatre jeunes hommes blancs, en noir, sur un trottoir, qui s'apprêtent à traverser, qui ne traversent pas. On ne les voit pas, on n'y prête aucune attention. Saint-Just tourne la tête et jette un coup d'œil vers les trois autres. Chacun de leurs mouvements dénonce leur nervosité. Chacun de leurs regards, une certaine solennité. Il les découvre graves et il les trouve beaux. Il les connaît peu. Il ignore tout de leur identité et d'ici moins de 30 minutes, il les quittera pour, selon toute probabilité, ne jamais les revoir. On a décidé d'être là ce matin, debout, au bord de ce trottoir. On sait pourquoi. On n'a aucun doute, mais ce n'est pas facile. Rien n'est facile pendant qu'on attend l'accusé. Saint-Just espère que tout sera terminé en moins d'une semaine. Son patron ne lui a accordé que 5 jours de congé. En cas de nécessité, il prendra le risque de perdre son travail à l'imprimerie, mais... s'il pouvait l'éviter. Il a un peu mal à l'estomac. Il aurait dû boire du thé au petit déjeuner, pas du café. Il aurait dû manger quelque chose. Il se demande si, dans la poche gauche de son blouson, il met d'ores et déjà le doigt sur la gâchette. Mais il ne veut pas de questions qui tournent dans la tête. Il ne veut pas d'incertitude, d'agitation. Il veut rien au futur. Le présent, des pieds froids, les mains dans les poches. Les trois autres ont comme lui les mains dans les poches. Ont-ils déjà placé le doigt sur la gâchette ? Que vont devenir ces trois-là ? Que vont devenir leurs familles ? Non, pas de question. Saint-Just s'est juré de ne pas penser à Chloé ni à Rosa, leur enfant. Il pose les doigts sur la gâchette. Il respire lentement. Il inspire pendant 7 secondes, garde l'air dans ses poumons 7 secondes, puis souffle entre ses dents 7 secondes. 21 secondes pour chaque respiration. Son cœur bat raisonnablement. Il le vérifie à chaque apnée, car son cœur bat dans ses oreilles. À chaque apnée, il se concentre sur le rythme cardiaque et l'encourage à ralentir. Pas Rosa. Pas Chloé. les battements de mon cœur, lentement. Saint-Just attend, la Ford Focus blanche. Le jour se lève, il fait de plus en plus clair. Les petits mouvements de chacun s'épurent. Les quatre hommes ont cessé de se lancer des regards furtifs. Ils sont concentrés. Chaque matin, l'accusé emprunte l'avenue de Versailles qui mène à ce stop, assis à l'arrière de sa berline bleu nuit. Un garde du corps le conduit. Un deuxième colosse est installé sur le siège passager. Le puissant 4x4 noir des deux derniers gardes du corps suit à quelques mètres. Chaque matin, le convoi apparaît entre 7h45 et 7h50. Jamais les deux véhicules ne marquent l'arrêt au niveau du panneau stop. Une Focus blanche approche. Non pas une banale voiture blanche comme il en circule des millions, mais celle que les autres attendent. La Focus blanche conduite par Robespierre, l'ami de Saint-Just, son complice, celui qui l'a recruté voici 4 ans, celui qui a identifié chez lui le besoin d'agir vraiment. Celui qui l'a nommé lui a donné ce nom Saint-Just, ce nom clandestin qui est depuis devenu le sien au plus profond. Préparez-vous. Saint-Just caresse la gâchette froide de son arme, il est prêt. Ses trois camarades aussi. La Focus blanche approche encore, immédiatement suivie par la berline bleu nuit de l'accusé et le 4x4 noir. Conformément à ce qui a été planifié, la Focus ralentit au niveau du panneau stop. Saint-Just regarde ses pieds puis la Ford qui roule. Il a le temps d'apercevoir le visage de Robespierre, ses mains gantées sur le volant. Au moment de dépasser le panneau stop et d'accélérer, Robespierre pile. Il pile au stop. La voiture de l'accusé s'encastre dans la Focus blanche et le 4x4 noir dans la berline bleue. Pendant que la tôle se froisse, Saint-Just sort son arme et dès que le 4x4 fermant la marche s'est immobilisé, il vise le cœur du passager avant de la voiture bleue, sa cible. Il tire 2 fois, puis vise la tête et tire 2 fois encore. Dans le même temps, chacun de ses 3 camarades neutralise en 4 coups de feu le garde du corps qu'il a pour mission de neutraliser. Chacun sa cible, 16 déflagrations en moins de 5 secondes. Saint-Just contourne la Focus blanche. Robespierre a déjà abandonné le véhicule pour rejoindre la Golf, conduite par Marat qui attend garé un peu plus loin. Saint-Just déverrouille la porte arrière droite de la berline bleue à l'aide d'une télécommande copiée sur l'original grâce à un contact à l'Élysée. L'accusé est là, à genoux entre les sièges, le front posé dans ses mains, sur la moquette. Entendant la porte s'ouvrir, il lève la tête. En un éclair, même si la peur donne une expression singulière à ce visage, Saint-Just reconnaît celui qu'il est venu chercher. Cet homme, agenouillé, dans sa berline, la bouche grande ouverte, lèvres et joues tremblantes, la langue rétractée au fond de la gorge, les yeux exorbités, c'est bien le président de la République française. Sortez. Vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes le groupe Ventose. Toutes les radios, toutes les télés ont interrompu le cours normal de leur programme. L'ensemble des chaînes tournant en boucle sur l'enlèvement du président de la République. Les envoyés spéciaux se relaient. L'un debout, micro en main, devant l'Élysée. L'autre devant Matignon. Un troisième au Sénat. Un quatrième au siège de FKL International, l'entreprise que dirige la compagne du chef de l'État. Dans leur dos, rien ne bouge. Les journalistes de l'info continuent. Habille le rien. Il comble de mots le silence haché par les pales des hélicoptères qui quadrillent sans relâche l'Île-de-France, à la recherche d'une hypothétique trace du président disparu, répétant inlassablement, et comme s'il le découvrait à nouveau, les circonstances de l'enlèvement, la double collision sur l'avenue de Versailles, au niveau du stop, l'exécution des 4 gardes du corps, l'absence de témoins oculaires, de revendications ou d'informations quant aux suites que les ravisseurs dont l'identité est encore inconnue souhaitent donner à cet enlèvement. Chloé a déjà vu le sujet plusieurs fois, mais elle ne parvient pas à se décoller de sa télé, à bouger de son canapé. Les événements peuvent se précipiter à tout moment. Appuyée contre sa mère, Rosa tortille une mèche de cheveux autour de son index. J'ai faim. Oui, ma chérie, on va manger tout de suite. Qui sont les ravisseurs du président de la République? Doit-on s'orienter du côté de la piste djihadiste? Maman, tu dis tout de suite, mais tout de suite ne viens pas et moi je vais mourir de faim et après je dois encore retourner à l'école. Alors moi, si je n'ai pas mangé... Oui, Rosa, on y va. Marat ouvre la grille. entre dans la cellule, ramasse le jogging jaune abandonné au pied du lit et invite le prisonnier, toujours nu, arpentant sans relâche l'espace confiné, à l'accompagner. Où m'emmenez-vous? Quels sont vos projets? On déménage? Je ne sortirai sous aucun prétexte de cette bâtisse. Il faudra m'arracher de force à mon lit si vous avez l'intention de me transférer ailleurs. Nous n'avons aucunement l'intention de vous transférer ailleurs. Vous avez 4 mètres à parcourir, je vous demande de me suivre. Vous avez décidé de m'égorger face caméra, c'est ça? Nous avons l'intention de vous filmer, sans pour autant vous égorger. Suivez-moi s'il vous plaît. Un petit studio d'enregistrement a été aménagé dans la pièce principale. Une bâche grise est accrochée sous le plafond. Elle tombe jusqu'au sol, qu'elle recouvre sur 2 mètres. Une chaise en bois est posée à même la bâche et lui faisant face, 2 projecteurs allumés à pleine puissance encadrent une petite caméra vidéo. Dans un coin sombre de la pièce, Robespierre procède au dernier branchement de matériel pendant que Saint-Just, derrière la bâche, baigné dans la lumière tamisée qui la traverse, compulse ses notes en marmonnant, les yeux exorbités, une épaule appuyée contre la porte de sortie. Il a déjà enfilé sa cagoule noire. Marat invite le prisonnier à rejoindre la chaise. Le prisonnier obéit. Les citoyens ont choisi un président. Ils ont élu l'accusé pour les représenter, pour défendre leurs intérêts. L'État met à disposition du président de notre République nombre d'outils politiques, économiques, culturels et médiatiques dont il doit user pour défendre les intérêts des citoyens, faire fructifier les richesses qu'ils produisent. Or, l'accusé n'a pas défendu les intérêts des citoyens. Il a accaparé les richesses à son profit. Malgré la fatigue accumulée, la parole de Saint-Just est fluide, sa pensée claire. L'accusé a servi ses intérêts personnels et ceux de son clan bien avant les intérêts du peuple. Il n'a eu de cesse d'accroître ses propres richesses et les richesses de ses alliés au détriment du bien commun. La voix de Saint-Just est détendue, solennelle. L'accusé a étouffé par tous les moyens les protestations des citoyens se sentant floués. Selon la propagande martelée par l'accusé et ses services, notre dessein serait de détruire la société. Nous contestons ces propos. Nous affirmons que l'ennemi de la société, c'est lui. L'ennemi, c'est le système qu'il contribue à entretenir. Nous n'avons pas pour objectif la destruction de la société. Nous voulons mettre hors d'état de nuire ce président auquel notre Constitution offre l'opportunité de régner comme un roi à la tête de notre État. Le groupe Ventose veut transmettre un enregistrement parfait aux médias. Derrière la caméra, Robespierre s'assure du bon fonctionnement technique du tournage. Face à la violence du pouvoir, face à la violence exercée par des institutions qui écrasent toute perspective de libération du peuple, nous répondons par la violence. Nous répondons par une violence que nous jugeons à la hauteur de la violence subie. À la tyrannie, nous répondons par le despotisme de la liberté. Notre devoir est de juger ce président monarque, de le condamner et de l'exécuter. Un cartel de grands industriels consolide son règne en tenant les médias les plus importants, journaux, chaînes de télévision. Tout type d'opposition est ainsi broyé. Aucun discours contestataire intelligible ne peut atteindre le peuple. Il est impossible de se faire entendre au sein du système dit démocratique, un système verrouillé par l'accusé et sa cour, un système de pérennisation de leur pouvoir, de leur domination, de leur oppression. Nous nous opposons à la violence de cette mainmise. Nous annonçons la fin de la sidération. Nous créons le mouvement en jugeant, en commandant, en condamnant et en exécutant l'accusé. Nous cessons de vivre au quotidien sous la domination des oppresseurs pétrifiés comme des lapins dans leur phare. Tenue par l'accusé et ses collaborateurs, la machine médiatique inlassablement réécrit l'histoire. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes des révolutionnaires. Accusé, le tribunal révolutionnaire déclare que sa loi s'oppose à la vôtre, que sa loi conteste votre loi injuste, inadaptée aux besoins du peuple, contraire à son épanouissement. Le tribunal révolutionnaire conteste votre légitimité et votre souveraineté. Vous avez trahi votre peuple. Vous êtes un traître
et c'est pourquoi le tribunal du peuple vous juge aujourd'hui. Le peuple ne laissera plus mener par un tyran dans la peur de perdre le peu qu'il possède et dans l'espoir diffus d'un jour meilleur. C'est en entretenant la peur et l'espoir que le tyran transforme le citoyen en esclave. Mais le soulèvement par lequel le plus puissant domine le plus faible ne peut en aucun cas avoir force de loi. A contrario, l'action par laquelle le plus faible se soustrait à la domination du plus puissant est un droit inaliénable. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour chaque citoyen un droit sacré, un devoir impérieux. Aujourd'hui, nous appelons le peuple à l'insurrection. Rosa et Rufus vident leurs deux pièces. Rufus est en mesure de travailler n'importe où sur son ordinateur portable. Rosa est en vacances depuis 2 jours, fin de l'année scolaire, plus d'hier et aucun demain qui tienne. Rien ne s'oppose à l'action. Le lundi 29 juin 2037, à 2h03, ils plantent leur tente sur les Champs-Élysées. Se lancent avec eux 66 internautes repérés par Rosa sur Yumi Us, étudiants, chômeurs ou jeunes salariés en situation précaire, excédés par la recherche infructueuse d'un appartement, à bout de force pour la plupart, après des mois de courses effrénées entre les études et les jobs mal payés, saignés à blanc par le loyer du bouge dans lequel ils survivent. Tout a été préparé à l'avance par SMS. Chacun sait à quelle heure précise déplier son abri sous les arbres du jardin public, entre Champs-Élysées, Clémenceau et la place de la Concorde, le long de l'allée Marcel Proust, par vague de 5, selon un planning organisé par Rosa. Une vague toutes les 15 minutes, de 2h à 6h du matin environ. C'est parti. Advienne que pourra. Dans la matinée, le village de Tente reçoit la visite de nombreux journalistes français et de plusieurs correspondants étrangers, souhaitant interviewer l'un ou l'autre des 68 habitants. Un camping sauvage sur la plus belle avenue du monde, on n'a jamais vu ça. Pendant que les uns répondent aux interviews, les autres surveillent sans discontinuer les limites du campement. Même si la tension s'est apaisée avec le lever du soleil, mieux vaut ne pas perdre en vigilance. Rosa et Rufus se sont postés face à l'avenue. Ils ôtent leur pull et l'attachent autour de la taille, le regard fixé sur les quarts de police. Rosa enchaîne. Je suis lasse d'observer sans réagir la dégradation de tout ce qui compose mes conditions de vie. Mais au-delà de ce constat, je n'aime pas le monde tel qu'il se présente à moi. Et plus le temps passe, moins je l'aime. Je vieillis peut-être. C'est ce que je me dis parfois. On vieillit puis on perd ses capacités d'adaptation. Mais cette explication ne me suffit pas. Ce n'est pas de m'éloigner de mon adolescence qui rend intolérable à mes yeux le fait que les 50 familles les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de la population planétaire. Ce n'est pas la maturité non plus qui génère en moi la honte quand je vois se construire les zones de séjour temporaires où nous parquons les étrangers. Je veux que le monde change. Profondément. J'ai toujours voulu, depuis que je m'y intéresse. Aujourd'hui, je veux agir pour qu'il change réellement. Je veux participer à l'avènement d'un monde différent. Je sais que la majorité n'aime pas la différence. Nous ne sommes pas éduqués à considérer la différence comme un atout. Ce qui est nouveau est différent, et ce qui est différent est jugé dangereux par le plus grand nombre. Eh bien, je crois qu'il faut apprendre à aimer la différence. Il faut aimer cultiver sa capacité d'inventer, car rien n'est immuable. L'humanité peut s'organiser autrement. Seule une pensée positive, exprimée dans un langage positif, est à même de faire émerger un modèle politique nouveau. Je ne crois pas qu'il soit fécond de s'opposer frontalement à ce système rodé. Quand deux corps se heurtent, l'énergie cinétique accumulée par chacun endommage les deux, voire les détruit.
je ne peux raisonnablement pas me lancer dans une action politique, en sachant qu'elle implique un déchaînement inévitable de violence et de cruauté. Le monde avance selon le mouvement qui l'anime, et ce mouvement, on doit pouvoir l'infléchir en luttant à l'intérieur des institutions. Tout n'est pas à jeter dans la Constitution de la Ve République. Il suffit de se débarrasser de ce qui maintient l'oligarchie au pouvoir. Supprimons le régime présidentiel, le financement des partis, et déprofessionnalisons la politique. Que le peuple s'empare de ce qui lui appartient. Qu'il réfléchisse aux moyens de décider collégialement de son sort. Qu'il constitue des groupes de réflexion, des groupes de décision, des forums citoyens. Qu'il s'appuie sur ceux qui connaissent le terrain politique, économique, et voit ce qu'il s'agit de modifier, de démonter, de ne surtout pas reproduire, ce qu'il s'agit de construire comme alternative entre le marché qui décide de tout et l'État qui décide de tout. On connaît les deux options catastrophiques, l'une comme l'autre. On pourrait par exemple commencer par remplacer le Sénat par une assemblée tirée au sort, renouvelable par tiers chaque année. Les citoyens désignés garderaient les rémunérations actuelles des sénateurs. Ce serait un excellent moyen d'introduire le tirage au sort dans nos institutions et de vaincre peu à peu les contraintes qu'ils provoquent et les craintes qu'ils provoquent dans la population non informée. Et dans les partis et les médias redoutant de perdre leur position dominante sur la scène politique. Nous voulons bien réfléchir avec tous aux moyens de mieux mettre en commun notre vie commune, que ce soit localement, régionalement ou nationalement. Dans quel rapport aux pays voisins, au continent, au monde, à leur pathologie, leur hostilité, nous militerons ensemble pour l'inscription des citoyens sur une liste de volontaires parmi lesquels seront tirés au sort ceux qui administreront le pays pendant une période déterminée. Nous nous inscrirons avec joie et fierté sur cette liste. Les fonctionnaires en poste informeront, aideront et conseilleront les administrateurs de la même manière qu'ils informent, conseillent et aident les élus. Cependant, s'il s'agit juste de prendre la place laissée vacante, nous ne voulons pas en être. Nous ne souhaitons pas prendre la direction de quoi que ce soit. Nous n'occuperons aucune place au sommet. Nous ne travaillerons pas avec ceux et celles qui, tous bords confondus, veulent le pouvoir pour le pouvoir, pour l'ivresse que procure son exercice, les assoiffés, ceux qui sacrifieront leurs idées et leurs alliés à leur position. Pour ma part, je ne saurais pas les démasquer et déjouer leurs manœuvres. Nous ne voulons pas passer notre vie à nous demander qui est là en face de nous, un ami véritable ou un traître potentiel. Notre vie sera ailleurs, là où chacun tient parole, là où aucun discours ne saurait justifier la trahison d'un allié, là où notre confiance peut se donner sans condition, se reprendre si nécessaire, mais se donner à nouveau sans condition. Là où le souci de l'autre dicte les comportements. Là où la tendresse dicte les lois de l'être ensemble. Denis Lachaud, Assaïra.
Et Francky Defonte.